Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'était il y a 5 ans, elle était sacrée révélation lyrique aux victoires de la musique classique. Depuis, Léa Desandré est devenue l'une des grandes mezzo des scènes françaises. Amazon, son premier disque récital solo, est sorti enfin. C'était cet automne chez Erato, album unanimement salué. Et elle s'apprête, à 29 ans, à faire ses débuts comme soliste à l'Opéra de Paris dans une nouvelle production des Noces de Figaro. Ce sera l'Opéra Garnier. Et c'est à partir du 21 janvier, même le 19, si on compte l'avant-première jeune. Bonjour Léa Desandré.
Bonjour Jean-Baptiste.
2 ans que, comme tous les chanteurs, les choses se font ou pas, que votre carrière continue de décoller, mais en pointillé avec les spectacles annulés, les refermetures, comme d'autres artistes, comme certains chanteurs et danseurs aussi. Vous avez l'impression d'avoir perdu des années de carrière, des années d'envol?
C'est vrai qu'on a été relativement impacté. Après, dans toute cette crise, on a essayé d'en tirer du positif. Ça a été un moment aussi où on a pu se recentrer sur notre instrument quand les choses vont vite et qu'on a beaucoup de concerts notamment. C'est aussi une période qui nous a permis de travailler du nouveau répertoire, de lire de la nouvelle musique, de revenir sur les fondamentaux. Voilà, moi, c'est là que j'ai trouvé du positif. Et également, les répétitions se passaient de manière très particulière, qui était que lorsqu'on allait en répétition pour une période de production, donc ce sont plusieurs semaines de répétition, on y va un petit peu comme si c'était acquis et qu'on allait faire les spectacles généralement. Et là, c'était à chaque jour, on le vivait un peu comme le dernier, en se disant peut-être que demain, on va tous se quitter. Donc il y avait une intensité de concentration et même émotionnelle entre tous les artistes. On a vraiment créé des liens très forts pendant cette période-là. On était tous très soudés. Donc c'était beau pour ça, en tout cas.
Cette nouvelle production des Noces de Figaro qui démarre donc dans quelques jours, le 19 janvier, dans moins de 2 semaines. Nous sommes tous les deux masqués ce matin, comme tout le monde ici en studio depuis plusieurs semaines, même avec des masques FFP2 maintenant pour être plus protégés. Est-ce que vous êtes angoissé non seulement d'être contaminé, mais aussi de mettre en péril toute une production? On l'a vu ces dernières semaines, comme tous vos collègues chanteurs. Dans quel état d'esprit vous êtes?
C'est compliqué, effectivement. On a tous très peur. On a tous très envie de pouvoir donner cette production. Donc on prend toutes les mesures possibles avec nos masques FFP2 en voyant le minimum de personnes possible.
En vivant dans une bulle presque.
Complètement, oui. Ça en devient un peu une obsession. En tout cas, en ce qui me concerne, je vis pour les noces en ce moment. Mais c'est important aussi. C'est ce qui nous permet de pouvoir aller sur scène. Il faut qu'on prenne toutes ces précautions-là. Et on a déjà la chance que les théâtres soient ouverts. Donc ça, c'est merveilleux. Donc jusqu'au bout, on va faire attention.
Les répétitions se font masquées, vous chantez masqué pendant les répétitions?
Absolument, on chante masqué jusqu'au dernier moment. Là, on n'est pas encore sur le plateau de l'Opéra Garnier, on répète à Bastille. Donc on est tous masqués, toute l'équipe, chanteurs, techniciens, tout le monde est masqué.
Du 19 janvier au 18 février à l'Opéra Garnier à Paris. Ce sera aussi le 26 février sur France Musique et le 3 février partout en France, dans plus de 200 cinémas à travers la France, dans les UGC, et en direct également sur la chaîne Culture de France Télévisions, Culture Box. Mozart, les Noces de Figaro, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, il y a ce disque formidable sorti cet automne.
Il pianto mio, aver l'anche, fantasia, aver l'anche.
un air chanté en italien d'un opéra dont le titre est en allemand, Die Getreue Alceste de Georg Kaspar Schumann. C'était Léa Desandré, notre invitée ce matin, qui n'a que 28 ans et non pas 29, comme j'ai dit par erreur tout à l'heure, l'ensemble Jupiter avec Thomas Dunford, merveilleux disque Amazon sorti chez Erato cet automne, qui a eu un superbe accueil. Vous avez été étonné, vous venez encore de recevoir un trophée 2021 du site Forum Opéra.
Bah, on était super heureux parce que le but de ce projet, c'était de faire redécouvrir de la musique qui n'avait pas été enregistrée ou en tout cas pas jouée depuis très très longtemps. Donc c'était un peu un pari parce que c'est pas forcément des programmes qui sont très faciles. Et on a quand même essayé de faire une sélection d'airs qui soit très variée et qui mette la musique baroque un peu à portée de tous, en tout cas des pièces faciles et plaisantes d'écoute selon nous. Et on est très très heureux et honorés de cet accueil.
Vous auriez pu enregistrer des tubes lyriques avec des compositeurs connus, faire un disque portrait montrant votre virtuosité, parce que c'est votre premier disque récital sur votre nom, vraiment. Pourquoi avoir choisi ce thème des Amazones? Comment ça s'est fait?
En fait, j'avais envie que pour ce premier projet, il y ait du sens un peu dans tout, en tout cas pour moi. Et ça a démarré avec la rencontre, évidemment, avec les musiciens de l'ensemble Jupiter et Thomas Dunford, où c'était une évidence pour moi de faire mon premier projet avec eux, parce qu'on a fait beaucoup de concerts ensemble et que musicalement, on vit des choses assez magiques. Donc, c'était une évidence. Et puis après, il y avait cette rencontre avec Yanis François, le musicologue du projet Amazon, qui est également un merveilleux chanteur, et on s'est rencontrés sur une production. On a beaucoup parlé de musique, de recherche en bibliothèque, parce que lorsque je faisais mes études à Venise, je passais beaucoup de temps à aller chercher de nouvelles partitions et aller à la recherche de nouvelles musiques. Et donc tous les deux, pendant des mois et des années, on a beaucoup parlé d'anciens répertoires et on cherchait un thème. On voulait qu'il y ait une cohérence dans le projet. Et un jour, Yanis m'a appelé en me disant je crois que j'ai trouvé les Amazones, c'est pour nous. Et effectivement, il y avait une quantité de musique. Vraiment, c'était faramineux de voir à quel point les Amazones ont inspiré des compositeurs d'époques très, très diverses et surtout de pays différents. Et ce projet nous permettait aussi de porter une sorte de message, puisque les Amazones étaient des femmes qui étaient très proches de la nature, qui vivaient vraiment en lien avec le vivant et qui puisaient beaucoup de force. Et donc ça nous permettait de parler un petit peu de cette chose très importante qui est la planète et tout notre écosystème et tout ce vivant qui nous accueille. Et voilà, quand on a la chance de venir vous voir à la radio ou de passer sur des plateaux télé, c'est aussi important de pouvoir porter un message complet. Et là, allier la musique et le vivant, c'était important pour moi en tout cas.
D'où cette pochette de disque avec la nature toute verte. Pourquoi cette passion de ces compositeurs baroques pour ces Amazones, femmes proches de la nature et femmes guerrières?
Je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Si on parle, par exemple, de l'aspect androgyne des Amazones, sur le traitement vocal, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup été écrit pour des voix d'entre-deux, des voix intermédiaires de mezzo-soprano. Tout comme le rôle de chérubin dans Les Noces de Figaro qui allie cette part de masculinité, mais en allant chercher une couleur féminine, puisque c'est la période de transformation, d'adolescence, de la puberté, quoi. Les Amazones avaient ça, ce sont des femmes, mais elles sont guerrières. Et donc, dans le timbre vocal, c'est intéressant de chercher cette couleur-là. Et puis aussi parce que les Amazones étaient très, très, très inspirantes de toutes les histoires qu'elles ont à nous raconter. Elles ont rencontré des personnes comme Hercule ou des personnages dans l'Iliade. Donc c'est un thème qui a traversé les époques, les pays, qui continue de nous inspirer. Et généralement, quand il y a un sujet qui est inspirant, les compositeurs aiment les mettre en musique.
Quand on enregistre des airs, des partitions qui n'ont jamais été, que ce sont des inédits, on les aborde comment? Avec une sorte de responsabilité, une plus grande liberté aussi peut-être?
Oui, absolument, avec beaucoup de liberté, de joie, d'excitation. Ça peut être un peu vertigineux aussi, parce que c'est toujours rassurant de pouvoir se reposer sur ce qu'on connaît. Mais, et puis de la chance d'avoir un label qui nous fait confiance et qui nous laisse enregistrer ce qu'on veut et porter ce programme. Ça, c'est quand même pas négligeable. Ouais, non, c'est génial. Vive les Amazones.
Vive les Amazones, vive Amazon, ce disque de Léa Desandré. Autre extrait, musique d'un autre compositeur fort peu connu, il s'appelle Giuseppe De Bottis. S'appelle Mytilénée, la reine des Amazones, musique de Giuseppe De Bottis. Vous ne connaissiez pas, et ben nous non plus, ni Léa Desandré, ni moi-même. Il y a quatre airs de ce compositeur ici sur ce disque Amazon paru chez Erato avec Jupiter et Thomas Dunford. Léa Desandré, on peut dire que c'est peut-être la plus grande découverte, révélation du disque.
Ouais, pour nous, ce compositeur a été une sacrée révélation. On connaissait vraiment même pas son nom. Et c'est notamment Cecilia Bartoli pour ce disque, moi, m'a beaucoup inspirée parce qu'on la connaît aussi beaucoup pour redécouvrir tout ce répertoire-là.
On n'a pas dit qu'elle chante dessus aussi. Hein.
Oui, on a eu la chance qu'elle soit là pour un duo. Et justement, quand on a découvert ce compositeur, on a beaucoup pensé à elle. Et elle, la première, lorsqu'elle a vu le duo, elle a dit « Mais qui est ce compositeur ?» Et toutes les personnes qui ont pu interpréter sa musique étaient étonnées de la beauté du rapport entre le texte et la musique et puis de l'orchestration qui est sublime.
Découverte sur ce disque Amazon, la musique de Giuseppe De Bottis avec cet air de Mytilène, reine des Amazones, Léa Desandré de l'ensemble Jupiter, dirigé par Thomas Dunford. On le disait, il y a donc aussi Cecilia Bartoli en invité, en guest, mais aussi Véronique Jans, William Christie. Puis il y a aussi, on l'a pas dit, là on a écouté de la musique italienne, mais il y a aussi la musique française sur ce disque. Mozart, donc, dans quelques jours, à l'Opéra Garnier, avec ce chérubin, autre personnage androgyne. origine. Comment vous le voyez, ce chérubin que vous avez d'ailleurs déjà chanté au Festival d'Aix l'été dernier?
Ce qui est très intéressant lorsqu'on fait des créations, c'est d'avoir des points de vue différents de metteurs en scène et de chefs d'orchestre. Et là, c'est une fois de plus le cas. Le point de vue de Nisha Jones, on part du principe que, en fait, on voit les coulisses d'une représentation du mariage de Figaro, donc de la pièce de Beaumarchais. Et donc, ce chérubin, et l'inspiration principale de ce chérubin, c'est Justin Bieber. Dans les autres sources d'inspiration.
Le chanteur pop américain.
Le chanteur pop
canadien,
américain.
D'ailleurs, je crois.
Je n'aime pas. On avait aussi comme inspiration la série Sex Education. Enfin voilà, on est sur un chérubin très, très porté sur la chose, très en découverte de son corps et de ses émotions. Et le travail est, j'avoue, vraiment fascinant. C'est aussi pour ça que je porte mon masque FFP2, parce que j'ai envie d'aller en répétition tous les jours pour continuer à mettre des couches et des couches sur ce chérubin. Mais on est sur un traitement très...
Beaucoup de vidéos ?
Il y a beaucoup de vidéos que nous, pour l'instant, on ne voit pas. En fait, on répète, on a tourné des images, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer au niveau de la vidéo. Mais c'est très déjà riche au niveau des interactions entre les personnages et nous, de ce qu'on fait de nos personnages. C'est un travail assez direct. On est vraiment sur les émotions. On essaie d'enlever, de gommer tous les tics d'opéra et d'être très réaliste. Et ça fait du bien aussi de travailler comme ça.
C'est une partie importante de votre métier de chanteuse lyrique, d'entrer dans le monde d'une metteuse en scène. Ici, très différent de ce que vous avez fait avec l'hôte de Berre. Il faut s'adapter. C'est extrêmement différent là, de ce que vous décrivez.
Ouais, c'est une très grande partie du métier. Et c'est la partie qui est fascinante aussi, parce qu'on est des sortes de pâtes à modeler. On est là pour être taillé et fait sur mesure à la vision du metteur en scène et du chef. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je n'ai pas envie d'aller en répétition ou en spectacle en apportant le chérubin que j'ai en tête. J'ai envie de sortir de cette production et de sortir de chaque spectacle en ayant compris quelque chose de nouveau grâce à la vision de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça aussi qu'on fait grandir nos propres personnages. Cette saison, je vais le chanter en tout, je crois que ce sera 6 fois, chérubin dans des productions différentes.
C'est 6 productions différentes,
oui.
De chérubin ?
Oui.
N'ai pas peur de devenir schizophrène.
Non, justement, c'est fascinant. J'ai hâte d'arriver au bout de cette série. Non pas pour en arriver au bout, mais pour voir comment mon personnage aura évolué. Et pour nous, comme pour le public, c'est merveilleux. Parce que du coup, on peut, au fur et à mesure, rendre un personnage de plus en plus complexe.
Chérubin, que vous avez déjà enregistré avec Laurence Equilbet.
Oh.
célèbre des airs de Chérubin, Volke Sapete, Les Noces de Figaro, ici avec l'orchestrine Soula de Laurence Equilbel et Adès André, notre invité ce matin. Les Noces de Figaro à Garnier, c'est à partir du 21 janvier, même si vous êtes jeune, à partir du 19 janvier pour l'avant-première jeune. Ce sera le 26 février sur France Musique, mais aussi le 3 février à la fois au cinéma, en direct dans les UGC et puis sur la chaîne Culture Box de France Télévisions. Léa Desandré, c'est votre début comme soliste à l'Opéra de Paris parce que c'est une maison que vous connaissez bien.
Oui, en fait, j'ai chanté là-bas quand j'étais enfant. J'ai commencé le chant dans le chœur d'enfants de l'Opéra. Et donc, à 12 ans, j'ai fait ma première production. C'était Louise de Charpentier. Puis après, j'ai fait Werther de Massenet. Et j'avoue que c'est de là aussi qu'est née ma passion pour l'opéra, la scène. Et puis, on avait la chance de voir des artistes extrêmement inspirants et inspirés. Donc, ça donnait très, très...
Avec lesquels vous chantez maintenant ?
Alors, non.
Tétilia Bartoli ?
Ah oui, j'ai pas fait de production avec elle, mais effectivement, oui. Ça, c'est des rêves qui se réalisent tous les jours. Mais comme celui de chaque matin, passer le portail de l'Opéra Bastille, j'ai toujours une émotion particulière. C'est un rêve d'enfant, je suis née à Paris... mes parents m'emmenaient beaucoup à l'opéra parce que oui, il y a des places pour les jeunes, comme vous le disiez, qui sont très abordables. Donc tous les jours, c'est un rêve qui se réalise. Et marcher dans ces couloirs et croiser les techniciens, les costumiers, c'est merveilleux.
Vous avez des souvenirs précis de ces moments où en coulisses, enfant, vous épiez la scène ?
Je me souviens très bien notamment de Werther, la dernière scène lorsqu'il y a le duo... entre Charlotte et Werther, on était en coulisses avec tous les enfants. On devait attendre pour notre dernière intervention. Et il faisait très noir parce que voilà, il fallait préserver la lumière sur le plateau. On était tous assis, silencieux, et on écoutait chaque soir cette musique sublime. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais, c'est très émouvant d'y repenser.
Vous appréhendez ces débuts comme soliste à l'Opéra de Paris?
Non, j'ai très très hâte. C'est pour ça que je garde mon FFP2 parce que je tressaille. Ouais, c'est merveilleux. C'est un rêve qui se réalise et on va tout faire pour que cette production puisse se faire, même avec ce Covid qui.
Et commencer à chanter avec cette représentation, ces avant-premières jeunes qui ont été créées pour des jeunes de moins de 28 ans, donc comme vous. Ça a un sens pour vous, chanter pour ce public-là,
ouais,
ces noces-là?
Complètement, je trouve que c'est merveilleux qu'on puisse donner accès à tous ces jeunes aussi facilement. Moi, j'ai souvenir d'avoir fait la queue pendant des heures avec mon pass pour pouvoir avoir des places, pour aller voir tous les spectacles possibles et imaginables. On n'avait pas encore à l'époque cette soirée spéciale jeune, donc c'est merveilleux. J'ai hâte de voir l'ambiance aussi qu'on aura en salle. Généralement, lorsqu'on fait des répétitions qui sont ouvertes aux écoles, aux lycées, aux collèges, on a une ambiance qui est très très porteuse, surtout sur les Noces de Figaro. Le public rit, où il y a quelque chose de très spontané, donc il me tarde.
Eh bien, nous aussi, rendez-vous pour ces Noces de Figaro à partir du 18 janvier, c'est à Garnier, ce sera sur France Musique fin février, ce sera au cinéma, ce sera sur le site de Culture Box. On va se quitter à nouveau avec le disque Amazon. Vous n'avez pas peur parfois d'être catalogué baroque ?
Non, c'est chouette d'être baroque, mais bon, cataloguer c'est pas toujours génial, mais c'est la classe le baroque.
Baroque et rock, voici... Amazon, Léa Desandré.
Thank you.
Petite clochette, c'est le final de l'Antiope, cet opéra de Carlo Pallavicino, Léa Desandré, et l'ensemble Jupiter dirigé par Thomas Dunford Duluth, avec cet album Amazon paru chez Arato. Merci beaucoup Léa Desandré, à très bientôt et
merci
rendez-vous pour ces Noces de Figaro à la radio, au cinéma, sur scène aussi, bien sûr. Demain, notre invitée sera l'écrivaine Hélène Gestern. Elle sort un super polar consacré à Scarlatti, aux sonates de Scarlatti. Et puis au générique de Musique Matin, il y avait Valentin Bobinet, Youtou Diego Aclopès, Marion Guillemet, Flora Sternadel, Pierre Matignon, Yacine Bouzard. La réponse à notre jeu, il y a une heure, notre voix mystère, c'était celle de Marlène Dietrich. Bonjour Rodolphe Bonneboulmier, rebonjour Émilie Marie.
Bonjour Jean-Baptiste, pas de petite clochette chez nous, mais un saxophone.
Ça vous va avez soulever. Une fée clochette avec vous
tous
c'est
les
ça,
matins.
Mais oui, bien sûr.
Tous les matins. Scaramouche de Darius Milhaud, tout
c'est
à l'heure dans
aussi.
L'émission. Bonne journée.
À demain.